bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous allez nous excuser pour le retard avec lequel nous venons de commencer cette émission. Et comme vous le savez, la délégation de la République démocratique du Congo est arrivée à Luanda lundi 17 mars dans la soirée pour participer aux négociations directes avec le M23 selon l'annonce de la présidence angolaise sur son compte Facebook officiel. Jusqu'à ce mardi 18 mars à midi, aucune indication n'a été donnée à Luanda quant au démarrage des négociations directes entre Kinshasa et le M23. Certaines sources précisent que l'Angola, qui assure la médiation entre les deux parties, devrait officiellement donner sa position ce mardi. Elles affirment cependant que des efforts diplomatiques sont en cours pour ramener le M23 à la table des négociations. Pour rappel, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé dans la soirée du même lundi son retrait des pourparlers de Luanda prévus sous l'égide de l'Angola. Dans un communiqué publié toujours ce lundi dans la soirée, le mouvement rebelle dénonce les sanctions européennes imposées à ses dirigeants, estimant qu'elles compromettent gravement les dialogues directs et empêchent toute avancée. Quelle lecture faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons ici dans ce studio Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Il est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, le parti membre de la coalition Lamouka. Il est notable du Nord Kivu. Bonsoir honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et lui doit être avec nous, apparemment il n'est pas encore là, c'est Jean-Thierry Mosenepo, il est cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, le parti membre de l'Union Sacrée, il n'est pas encore là, on espère qu'il va nous rejoindre. Et en ligne également, Jeff Moudimbi, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir monsieur Guy Maté. Et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, la délégation de la République démocratique du Congo est arrivée à Luanda lundi 17 mars dans la soirée pour participer aux négociations directes avec le M23 selon l'annonce de la présidence angolaise sur son compte Facebook officiel malgré les refus des dernières minutes du M23. La conséquence de l'échec du dialogue prévu à Luanda entre le M23 AFC et le gouvernement congolais peut être l'aggravation des tensions militaires sur le terrain. C'est ce que pense Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à l'Institut des recherches et Bouteli, d'où il estime qu'il est nécessaire que les deux parties en conflit définissent clairement leurs objectifs afin de se retrouver sur la table des négociations pour une désescalade de la crise. Trésor Kibangula fait une analyse sur cet échec des pourparlers. Il a été joint par Grace Amzati.
C'était un revirement qui n'est pas totalement surprenant parce que officiellement, c'est vrai, le M23 justifie son retrait par les sanctions européennes qui sont tombées la veille de ces rendez-vous de Luanda et qui ont visé plusieurs de ses responsables ainsi que des cadres militaires rwandais. Mais en réalité, lorsqu'on regarde de près, cela traduit surtout une position des forces parce que le M23 estime qu'il n'a aucun intérêt aujourd'hui à s'engager dans des négociations sans garantie solide sur ses revendications. Tant que la situation militaire lui sera favorable sur le terrain, il peut donc se contenter et se permettre d'attendre et de faire monter les enchères. Je pense qu'il faut aussi noter que cette annulation, vous avez dit, de dernière minute, est une manière d'exposer les contradictions de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis des mois, le président de la République, Félix Tshisekedi, refusait catégoriquement toute négociation directe avec les M23. Mais aujourd'hui, avec la pression diplomatique sur Kigali, mais aussi cette pression diplomatique qui continue à dire au gouvernement congolais d'ouvrir un espace de discussion, le président Tshisekedi a dû revoir sa posture. Les M23 profitent donc de cette volte-face de Kinshasa pour montrer que c'est le gouvernement qui court après les négociations et non l'inverse.
Et malgré ces refus par les M23, le gouvernement congolais a confirmé sa participation et d'ailleurs sa délégation s'est même rendue à Luanda, sachant que l'autre partie s'était déjà retirée. Comment expliquez-vous cette attitude de Kinshasa?
Ouais, c'est une position très délicate parce que le pouvoir a longtemps martelé, comme je disais, qu'il ne négocierait pas avec les rebelles. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que Kinshasa n'est pas l'obstacle à la paix et que c'est l'autre partie qui refuse de venir discuter. Donc d'abord, c'est une question d'image pour Kinshasa. Ensuite, je pense aussi que c'est un pari tactique parce que en restant dans les processus, le gouvernement congolais garde une porte ouverte tout en laissant la responsabilité de l'échec de cette discussion de Luanda au M23. La communauté internationale va voir encore une fois, comme en décembre, que c'est Kigali qui n'est pas venu, le président rwandais n'était pas venu au rendez-vous de décembre, et cette fois-ci, le rendez-vous de mars, c'est le M23 qui n'est pas venu.
Jean-Baptiste Mouine de Kwasekwa, je rappelle que vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, et parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes notable du Nord Kivu. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation?
D'abord, notre parti SID félicite l'Union européenne pour la fermeté avec laquelle elle a pris ses sanctions. Deuxièmement, les CID notent avec regret que l'AFC M23 vient de rater l'occasion d'éprouver à la communauté congolaise les minimums d'autonomie dont l'AFC M23 pouvait se prévaloir vis-à-vis des positions du Rwanda. Vous savez que depuis le lundi, avant même que les sanctions de l'Union européenne ne tombent, le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique. Depuis un temps, le Rwanda a déploré la politisation de l'aide au développement de la part de l'Allemagne. C'est un incident diplomatique à court. Le Rwanda a qualifié de honteuse la condamnation par le Canada de l'implication du Rwanda dans la crise congolaise. Beaucoup d'autres pays ont pris des sanctions. Il était donc naturellement attendu que le M23 aligne sa position à la thèse du Rwanda et nous attendions que le M23, l'AFC, Corneille Nangaa démontrent le contraire. Malheureusement, ici, sous prétexte des sanctions de l'Union européenne, eh bien, ils ne sont pas partis. Nous nous posons la question de savoir, dans la suite des négociations, est-ce que le M23 va continuer à aligner sa position sur celle du Rwanda? Kagame a dit vendredi ou samedi dernier que parmi les causes de la revendication de la guerre affichant les comportements de la Belgique, que la Belgique a une responsabilité historique du fait d'avoir retiré de l'ancien royaume du Rwanda Masisi, Rutshuru, Kalehe, toutes ces parties qui sont congolaises. Demain, sur la table des négociations, nous allons démontrer que Nyiragongo, c'est une partie du royaume Hunde, c'est Ninaongo, c'est Akihunde, ça n'a jamais été dit Kinyarwanda. Est-ce que l'M23 va claquer la porte parce que nous aurons contredit le Rwanda? Demain, nous n'allons pas accepter à nouveau que l'armée congolaise soit infiltrée. Lorsque nous aurons, par le processus de Luanda, abouti au cantonnement de M23, nous allons procéder à l'identification pour savoir, parmi tous ces gens-là qui sont dans les radios M23, qui sont congolais, qui ne le sont pas. Et lorsque nous allons identifier que tel commandant, il est rwandais, il ne peut pas être intégré dans notre armée. Est-ce que Corneille Nangaa va claquer la porte? Bref, ce que affiche l'M23 aujourd'hui est un précédent fâcheux. Troisièmement, la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut sur le terrain, particulièrement à Goma et à Bukavu, démontre que, en fait, le M23 n'est pas capable d'assurer l'administration des grandes agglomérations. L'armée rwandaise livre nos villes à la destruction économique, aux tueries dans des villes. Est-ce que nous devons continuer à tergiverser sur la mise en œuvre des points 2 et 4 de la résolution 2773 du Conseil de sécurité? Non. Il y a une urgence. Et je ne peux pas comprendre ici que parce qu'on a sanctionné 7 ou 10 ou 8 commandants de l'armée rwandaise, Corneille Nangaa, Bisimwa s'interdisent de voir la souffrance dans laquelle se trouvent leurs compatriotes. Ils sont compatissants des intérêts du Rwanda et non de la situation de leurs frères. Non. Nous devons tout mettre en œuvre. Et je salue ce qui est dit, que des démarches sont menées pour amener le M23 sur la table des négociations. Parce qu'il n'y a aucune raison de tolérer que les calvaires que traversent les populations dans les zones occupées par les M23 puissent continuer. Mais également, des efforts de Luanda doivent être menés pour que un cessez-le-feu immédiat soit respecté, parce que on peut pas accepter que le Rwanda aille livrer demain Kisangani, Kindu, Kalemi, Kolwezi ou d'autres villes dans les mêmes conditions que traversent Goma et Bukavu aujourd'hui. Bref, ça ne se justifie pas. L'urgence humanitaire et sécuritaire nous impose à redoubler d'efforts pour ramener ces gens-là à la table des négociations afin que de toute urgence, les points 2 et 4 de cette résolution soit d'abord matérialisée.
Voilà, vous avez dit sous prétexte des sanctions de l'Union européenne. À votre avis, quelles sont les véritables raisons qui poussent aujourd'hui les M23 AFC à pouvoir se retirer du mécanisme de Luanda?
Le véritable raison, c'est que il sont sous la coupe de Paul Kagame. Vous avez suivi son interview le samedi. Il était totalement remonté contre la Belgique. Et comme je l'ai dit, le Rwanda a rompu les relations diplomatiques avec la Belgique. On a annoncé cela avant même que les sanctions européennes tombent. Et quand vous lisez la liste des personnalités sanctionnées, même des entreprises sanctionnées, ce sont principalement des personnalités rwandaises. Comment Nanga, qui est congolais de père et de mère, peut souffrir de ce que des commandants de l'armée rwandaise soient sanctionnés? Bref, la principale raison, c'est la tutelle du Rwanda sur le M23. Et cela, ça ne présage pas de la liberté dans la poursuite des négociations qui devraient commencer.
Voilà, vous avez suivi l'analyste de Trésor Kibangula qui pense que le M23 adopte cette attitude parce que, notamment, il se sent en position de force. Mais au-delà de cette posture, vous ne pensez pas que les sanctions qui tombent presque tous les jours contre ces mouvements rebelles fragilisent à certains égards cette rébellion?
Non, les causes défendues par le Rwanda nécessitent que des positions farouches soient prises à l'encontre du Rwanda. Lorsqu'il déclare qu'il faut remettre en question même les frontières, lorsqu'il occasionne des crimes contre l'humanité tels que ceux que nous avons décriés à Goma, à Bukavu, à Kishishi et d'autres, eh bien, il est impérieux que des sanctions, des positions fortes soient prises à l'endroit du Rwanda, parce que si le Rwanda a persisté à perpétrer des guerres d'agression à l'Est, c'est entre autres à cause de l'impunité dont il est bénéficiaire depuis 30 ans. Et donc pour moi, les sanctions ont été réclamées par les populations congolaises. Souvenez-vous même des manifestations contre la MONUSCO en juillet. C'était pour que la communauté internationale adopte des sanctions. Les manifestations dont nous avons déploré les violences le 28 janvier ici à Kinshasa, c'était en fait un cri de détresse des populations congolaises pour dire nous sommes livrés à l'extermination. Nous demandons que la communauté internationale sévisse contre ceux qui commettent ces crimes. Et donc ces sanctions-là sont les bienvenues. Néanmoins, les sanctions internationales ne peuvent pas transformer un leadership national médiocre et défaillant en un leadership capable de nous conduire à la victoire. C'est là que j'appelle les CC5O à s'investir davantage pour que les pactes sociaux soient relancés afin de saisir cette opportunité de la mobilisation internationale. En juillet 2022, en réponse aux demandes des populations congolaises, la communauté internationale a levé les moratoires sur la vente d'armes à destination de notre pays. Mais à quoi a-t-on assisté? Au lieu que cette levée de l'embargo profite à la RDC, nous avons vu ce sont des tonnes d'armes que le gouvernement congolais a donné au Rwanda à Goma. Et donc, même ces sanctions présentes ici sont une grande opportunité, mais il faut que, à travers le processus de Kinshasa, comme l'a dit Martin Fayoulou, les évêques, les pasteurs de l'SSC5O mettent toutes les parties congolaises ensemble, que nous puissions réqualifier le leadership, la gouvernance, corriger toutes ces aventures de défaillance interne, faute de quoi nous allons même décourager les bonnes volontés à l'international qui sont prêtes à nous aider. Voyez-vous, même dans des zones comme Beni Territoire, comme Ituri, où le Rwanda n'est pas en train d'agir, l'M23 n'est pas en train d'agir, c'est la jungle, dans les Kwamutu, dans les Maïndombe. Bref, il y a une nécessité que SSS5O réunisse tous les Congolais, qu'on réqualifie le leadership, la gouvernance interne de notre pays, pour que nous puissions profiter de cette mobilisation interne que la communauté internationale nous apporte à travers ces sanctions.
Voilà, parce que la question des sanctions a été évoquée par les M23, n'est-ce pas, pour justifier son retrait du processus de Luanda. Est-ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, considérer cette question des sanctions comme étant un préalable, n'est-ce pas, qu'il faut prendre en compte par les médiateurs?
C'est inacceptable, Guy Maté. Le M23 fait du chantage, effectivement, pour qu'on lève ces sanctions. Aller aux négociations ne signifie pas un chèque à blanc pour l'impunité. Il y a des crimes graves. On a déformé Goma à carnage. Le rapport n'est pas encore exhaustif. On a parlé initialement de plus de 3000 morts. Sous la responsabilité de ceux qui ont fait la guerre dans la ville. Ce qui se passe aujourd'hui à Bukavu, jour pour jour, les auteurs de ces crimes doivent être punis. Et donc, que les M23 fassent du chantage aujourd'hui, demander à l'Union européenne de retirer ces sanctions, faute de quoi les M23 va poursuivre la guerre, eh bien, nous voulons dire aux M23 que l'illusion de la force a des limites. Parce que ces sanctions nous donnent quand même un avantage. Le premier avantage, c'est que le Rwanda ne va plus faire entrer ouvertement ses troupes sur le sol congolais, comme le Rwanda l'a fait à la borne 12 et 15 contre la ville de Goma. Le Rwanda va commencer à se cacher. L'M23 ne va pas continuer à se livrer impunément à des crimes, à des violations des droits de l'homme. Et parce que l'M23 et le Rwanda vont commencer par réfléchir par deux fois, ce sont des opportunités. Mais si on cède au chantage, demain le Rwanda va dire, vous n'allez pas aux négociations tant que la Belgique ne nous aura pas demandé pardon. Tant que l'Allemagne n'aura pas cessé de dire qu'il nous va suspendre l'aide. Mais tant que le Canada, non, nous irons jusqu'où? Non. On doit répondre de ces actes, non à l'impunité. Et si l'M23 ne veut pas saisir l'occasion d'aller aux négociations, malgré la défaillance et la complicité du leadership en cours, le peuple congolais ne va pas se laisser faire. J'ai parlé ce matin à des populations de Bukavu qui disent, ils en ont marre. Si le gouvernement ne leur vient pas en aide, si la communauté internationale ne peut pas durcir les sanctions, parce qu'il faut qu'on aille même jusqu'à l'embargo sur la vente d'armes à destination du Rwanda. La RDC a été mise sous embargo pendant beaucoup d'années. Pourquoi pas le Rwanda? Il faut qu'on impose un embargo sur la traçabilité des minerais. Si on en arrive là, eh bien, je ne vois pas le Rwanda s'obstiner outre mesure. Même les citoyens rwandais auxquels Paul Kagame a demandé de serrer la ceinture parce qu'il y aura la famine, il y aura la crise, mais on ne peut pas indéfiniment serrer la ceinture. Même la population rwandaise finira par se retourner contre lui et comprendre que nous avons intérêt à régler pacifiquement cette conflictualité dans la sous-région de Grand Lac. Et donc ce chantage-là que mène l'M23 pour demander qu'on lève des sanctions d'abord avant d'aller sur la table des négociations, c'est un chantage inacceptable.
Merci. Selon le communiqué officiel de l'Angola de ce soir, il n'y a pas eu de dialogue pour des raisons de force majeure. Ça, c'est un communiqué qu'on attendait depuis la journée. Donc, les communiqués viennent tomber. Donc, pour annoncer qu'il n'y a pas eu de dialogue pour des raisons de force majeure. On rappelle aussi que la délégation du gouvernement congolais est sur place depuis hier lundi. Jeff Mundimbi, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Et pour vous, comment vous comprenez cette volte-face du M23 qui hier s'est retiré, n'est-ce pas, du processus de Luanda en évoquant notamment cette question des sanctions?
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Et je voudrais d'abord faire remarquer que c'est une situation regrettable parce que les populations congolaises ont sérieusement souffert et nous avons estimé que le dialogue est un mécanisme de résolution des conflits, un mécanisme pacifique de résolution des conflits. Et la négociation impose aussi que les deux parties antagonistes puissent être ensemble. Mais maintenant là, que le M23 ou l'AFC M23 se retire, on comprend déjà qu'il n'y a pas cette volonté-là d'arriver à une solution mutuellement acceptable. Et c'est une situation que nous regrettons parce que les populations congolaises, particulièrement celles de l'est du pays, sont en train de traverser des moments très compliqués. Et au nom du Congo, le pays Congo qui constitue notre dénominateur commun, on ne peut pas se réjouir de voir nos frères en train de...
Professeur Jeff Moudimbi.
Souffrir tels qu'ils sont là-bas. Alors,
voilà, apparemment...
Alors, M. Guimaté.
Oui, allez-y, parce qu'à un moment donné, on vous a perdu. Allez-y.
Ok. Alors, je disais que, mais revenant maintenant à votre question, nous pouvons dire que l'attitude de l'AFC M23 peut être expliquée par le fait, par ceci. En effet, on ne peut pas aller à la négociation tête inclinée. Et quand on va dans une négociation, dans une position de faiblesse, alors on peut estimer qu'il n'y aura pas de monnaie d'échange. Alors comme certains dirigeants du M23 et même du Rwanda ont été sanctionnés par la communauté internationale, donc ce mouvement s'est senti un peu déplumé, s'est senti un peu dans une position de faiblesse. Alors comment peut-on aller aux négociations dans cette position-là? Donc on estime qu'on y va déjà perdant. Et ça, c'est un élément qui peut expliquer la renonciation de ce mouvement-là aux négociations de Luanda. Alors, qui plus est, nous retiendrons que l'attitude du mouvement FCM23 illustre bel et bien que ce mouvement est à la traîne du Rwanda. Parce que nécessairement, si c'était un mouvement congolais, et je pense que les sanctions infligées par le Rwanda ne pouvaient pas avoir de l'impact sur leurs attitudes. Donc on comprend aisément que le Rwanda constitue la base arrière de ce mouvement. Alors, ce mouvement se sentant déjà un peu déplumé, mais on regarde du côté maintenant du gouvernement congolais et on pense que les sanctions de la communauté internationale viennent un peu renforcer la position du gouvernement congolais. Alors, la conséquence, c'est que on s'engage dans des négociations avec des forces déséquilibrées. Alors, cette situation-là ne peut pas encourager la partie qui se sent lésée à bien vouloir s'engager dans ces négociations. Voilà un peu ma lecture sur le refus du mouvement M23 à pouvoir participer aux négociations de Luanda.
Oui, professeur Jeff Moudimbi, au-delà de tout ce que vous venez de dire, hein, on a l'impression qu'il y a une certaine rivalité entre, d'un côté, les puissances occidentales et de l'autre côté, l'Union africaine, hein, parce que les puissances occidentales sont dans cette logique, n'est-ce pas, des sanctions contre les M23 et son soutien, n'est-ce pas, que les Rwanda. Tandis que du côté de l'Union africaine, on ne procède pas aux sanctions, mais on prône beaucoup plus un règlement pacifique, politique, n'est-ce pas, de cette crise. Comment peut-on arriver à concilier ces deux positions, professeur Jeff Moudimbi, pourvu, n'est-ce pas, que l'on sauve Luanda?
Ok, merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je voudrais aussi souligner ceci. C'est que moi je souhaite appeler par société internationale, parce que bon, j'utilise le terme communauté internationale par snobisme tout simplement, mais moi je pense que le terme qui convient le mieux c'est celui de la société internationale. à tous les niveaux, on joue en fonction des intérêts. Et la partie qui offre plus de garanties de la préservation des intérêts de cette société-là, cette dernière la soutient. Alors, vous allez comprendre que au niveau de la, du continent africain, le Rwanda a eu vraiment une emprise sur notamment les États de la les États de l'Afrique centrale. Donc, la communauté elle est assez. Alors, à un moment donné, on n'avait jamais voulu prononcer le terme du Rwanda pour citer les Rwandais que ce pays est impliqué dans les conflits en RDC. Bon, alors, finalement, la pression ou bien la diplomatie congolaise a joué au point que tout le monde a compris que non, il fallait citer le Rwanda nommément et commencer à dénoncer les différentes actions que ce pays est en train de mener contre la RDC au travers, bien entendu, les mouvements FCM23. Alors, comment faire pour que réellement la situation puisse tourner en faveur de la RDC par rapport aux positions différentes entre les pays africains et les pays européens ou occidentaux? Je pense que ici, c'est seulement un problème d'intérêt ou un problème de force. Le camp qui sera le plus fort va chercher à imposer sa vision à l'autre. Et si réellement les Occidentaux jouent franc jeu et qu'ils sont dans une position de force, ils contraindront les pays africains à suivre leur orientation. Mais si, par exemple, les organisations au niveau de l'Afrique ici sont aussi tenaces au point de faire infléchir la position des Occidentaux, et nous pensons que la position des pays africains va avoir une hégémonie sur celle des pays occidentaux. Mais ce qui est évident, on ne sait pas se voiler la face, les pays africains dépendent dans la majeure partie des pays occidentaux. Et si les Occidentaux tiennent mordicus à leur position, ils vont tout faire pour faire infléchir la position des pays africains qui sont en train de faire des allégeances avec le Rwanda ou qui ne veulent pas condamner de manière énergique le Rwanda.
Oui, professeur Geoff Mudimbi, peut-on déjà parler à ce stade de l'impasse? Et si oui, à qui profiterait cette impasse?
Bon, je pense que comme toutes les parties ne se sont pas encore accordées, on peut dire que bon, il y a un peu de l'impasse. Mais cette situation ici peut être profitable au gouvernement congolais si celui-ci n'est pas distrait. En effet, dans cette situation, je pense que le premier intervenant l'a dit, nous pouvons profiter de cette tendance des Occidentaux à s'allier à la cause des Occidentaux pour s'organiser. Et l'État congolais, ça je suis en train de déplorer, l'État congolais doit fournir des efforts assez remarquables pour instaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Monsieur Guy Maté, sur votre gouverne, il y a des entités congolaises ici sur lesquelles vous ne pouvez même pas trouver une armée ou même la police. Il y a des entités congolaises là où on ne connaît même pas la monnaie congolaise. Ce sont des monnaies des pays voisins qui circulent. Donc l'État congolais ne doit pas seulement chercher à dire non, voilà, ce sont les étrangers qui font ceci, mais on doit aussi faire une introspection en interne. Qu'est-ce qui ne marche pas avec nous-mêmes? Donc instaurer l'autorité de l'État, être sérieux dans ce que l'on fait, être sérieux dans les engagements que l'on est en train de prendre. Et à ce moment-là, notamment aussi recourir à l'achat des armes, et les armes qui peuvent peuvent amener les autres à comprendre que ici, la RDC est dans une position de force. Mais dans ces conditions-ci, si le M23 se retire, mais dit non, nous allons continuer le combat. Mais sur le champ, nos militaires manquent des rations. Sur le champ, nos militaires manquent des munitions. Sur le champ, nos militaires ne sont pas motivés. Vous allez voir que cette situation qui semble être favorable à la RDC risquerait de ne pas lui être profitable. C'est plutôt le camp adverse qui va chercher encore à gagner le terrain. Et quand ce camp adverse aura gagné des grands espaces, ce camp se retrouvera encore dans une grande position de force. Et à ce moment-là, nous allons dire que allons à la négociation ou aux négociations. Le camp adverse dira non et on risque de revivre la situation que nous avons vécue entre le régime de Mobutu et le mouvement Afdel qui venait avec Laurent Désiré Kabila. À ce moment-là, on va seulement réclamer le départ de ceux qui gouvernent parce que le camp adverse est déjà dans une position de force. Donc, bref, je voudrais demander au gouvernement congolais de profiter de ce moment pour s'organiser suffisamment, chercher à imposer son autorité sur l'ensemble du pays. Faute de quoi, l'autre camp risquerait encore de s'organiser et de revenir dans cette position de force.
Merci. Je rappelle qu'on devait avoir dans cette émission Jean-Thierry Mosenepo. On l'avait annoncé depuis le début, mais il ne décroche pas, il ne répond pas. Au téléphone, il est cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, mais il ne décroche pas son téléphone. Donc nous allons écouter maintenant les différents auditeurs qui sont en train d'intervenir pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Nous allons pour vous, Jean-Baptiste Kasekwa Muindo, nous allons écouter, n'est-ce pas, cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Japheth Yonga depuis la ville de Kinshasa. La non-participation des M23 a fait aux négociations prouve un agenda caché. Elle s'accrocha sur les sanctions de l'Union européenne pour justifier la non-participation dans ces assises. Les rebelles ont compris leur défaite sur le plan diplomatique et cette défaite aura de l'impact sur la table des négociations. C'est pourquoi ils se sont retirer pour chercher d'autres moyens qui vont leur permettre à imposer au gouvernement congolais les cahiers des charges pour trouver une réponse favorable à leurs revendications. De ce fait, le gouvernement congolais vient de gagner une fois de plus sur le plan diplomatique. Nous demandons au gouvernement de continuer de multiplier les efforts en fait de contraindre ces rebelles à se retirer sur le territoire congolais, car ces réfugiés prouvent à la face du monde qu'ils ne veulent pas que la paix revienne dans la partie est du pays.
Jean-Baptiste Mouine, c'est quoi?
L'auditeur Japheth a partiellement raison, mais on ne devrait pas se féliciter de ce que le gouvernement aurait gagné sur le plan diplomatique. L'échec de la rencontre du 15 décembre 2024 a ouvert la voie à des offensives militaires sur le terrain. Félix Tshisekedi a convoqué les conseils supérieurs de la défense. On a lancé ce qu'ils ont appelé opération Carte Pilar 2. On a tenté de nous faire croire qu'on a récupéré Masisi, Ngungu et quelques entités. Mais nous avons subi jusqu'à ce jour le revers de la médaille. Nous avons perdu Sake, Minova, nous avons perdu Goma, Nyabibwe, Bukavu jusqu'à Kamanyola. Aujourd'hui, l'ennemi est à la porte de Walika le centre.
Et l'échec d'aujourd'hui,
est-ce que l'échec d'aujourd'hui
peut aussi, n'est-ce pas, déboucher sur l'intensification des combats sur le terrain, n'est-ce pas?
C'est là que nous devons mettre M. Félix Tshisekedi en garde. Si l'échec d'aujourd'hui, il est prévisible que le Rwanda, le M23, vont lancer des offensives et n'ont jamais arrêté. Si Félix n'est pas en mesure de faire en sorte que l'avancée du M23 soit stoppée et que Kisangani ne soit pas transformé en champ de bataille, que Kisangani ne connaisse pas un carnage identique à celui de Goma, de Bukavu, eh bien, nous devons tirer les conséquences. Parce que si le gouvernement n'arrête pas son l'avancée de M23 vers Kisangani, les conséquences sont graves. Si par exemple l'aéroport de Bangoka passe sous contrôle de l'ennemi, et peu comme l'aéroport de Kavumu, de Goma, cela veut dire que Bukavu, Beni, Iziro ne seront plus accessibles à partir de Kinshasa. Est-ce que nous allons continuer à applaudir, à acclamer M. Félix devant des incapacités de ce genre? Donc, pendant que Luanda vient de capoter aujourd'hui, nous devons nous montrer de plus en plus exigeants vis-à-vis du pouvoir qui nous gouverne. Nous savons que le Parlement, il est totalement complaisant. En réalité, il y a des sanctions qui auraient déjà dû être prises vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, mais c'est à nous, comme victimes, comme population, d'exercer de la vigilance, de demander des comptes, de faire une mise en garde vis-à-vis des gouvernants pour dire « Prenez toutes les dispositions. Nous savons que le Rwanda va se déployer sur le terrain des offensives, qu'on n'attend plus que Uvira, que Kalemi, que toutes les villes Kindu soient sous la menace, mais plutôt que le gouvernement nous rassure de sa capacité à capitaliser cet appui de la communauté internationale pour imposer, comme je l'ai dit, que les points 2 et 4 de la résolution 2773 soient mis en œuvre, que le cessez-le-feu à la limite soit respecté, que ces gens-là se retirent déjà des entités qu'ils occupent, que l'on procède à leur cantonnement. C'est ce dont nous avons besoin. Mais si par contre...
Qui pourrait imposer cela?
Qui pourrait imposer cela?
Le respect de la résolution 2773.
La résolution émane du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Avec un caractère contraignant.
Avec un caractère contraignant, mais nous devons nous mobiliser, donner des garanties de la bonne volonté de notre part, assainir notre espace interne. Nous pouvons obtenir dans les jours qui suivent l'adoption d'une nouvelle résolution de mise en œuvre de la résolution initiale. Et peut-être, qui sait, que par cette résolution, Martin Fayoulou demande toujours ça, que l'on obtienne du Conseil de sécurité des Nations Unies la reconfiguration du mandat de la MONUSCO pour lui donner une mission compatente à l'instar de l'ONIC en 1960. C'était Opération des Nations Unies au Congo, et comme nous l'avons obtenu en 2013, mais tout cela dépend de la manière dont, en interne, nous faisons pression sur le leadership, le gouvernement de faire place. Tout cela dépend également de la manière dont nous capitalisons les sanctions actuelles prises à l'encontre du Rwanda et des dirigeants du M23.
Joyce Ndele qui dit ceci, il faut que le Congo cesse ses négociations avec des terroristes génocidaires sanguinaires. Bon, c'est sur ce propos, ça ne mènera à rien. Voilà, ça c'est Joyce. Il y a Richard Kembo qui dit la RDC doit acheter les armes de la génération pour se faire respecter. Il y a aussi Ruben qui dit je vous suis depuis Kasumbalesa. Et pour terminer cette guerre, la vraie solution revient à Monsieur Tshisekedi, lui qui est le président et qui contient toutes les dispositions des négociations. Ce sont ses propos. Ici nous avons aussi Patrice Mudewa qui pense que cette impasse devrait nous aider à nous organiser militairement. Et, honorable Kasekwa, cette impasse devant laquelle nous nous trouvons maintenant, et comment on peut l'exploiter à notre faveur?
À notre faveur, il faut que rapidement les évêques et les pasteurs réunissent les parties prenantes pour que nous puissions requalifier le leadership à place. Le pouvoir de M. Félix nous a fait rater énormément des opportunités. L'auditeur parle tantôt ici d'acheter des armes de la dernière génération. Mais savez-vous que sous le leadership de Félix, les marchés d'achat d'armes sont devenus une mafia? Nous avons mis en place une commission pour mener des enquêtes sur le détournement des fonds destiné aux opérations.
Ça, c'est au Parlement.
C'est ça, au Parlement. La commission a été bloquée par la maison militaire du président de la République. C'était sous la législature passée 2021 jusqu'à ce jour. Nous avons mené des enquêtes que la mafia faisait en sorte que même lorsqu'il fallait acheter des drones de renseignement militaire, on détournait des fonds pour acheter des drones de reportage de matchs de football. Et ça, c'est un leadership qui ne garantit pas, qui ne fait pas signe de responsabilité. Il faut donc qu'une table ronde entre parties prenantes réexamine la manière dont le leadership est mené. On prend des dispositions pour requalifier la gouvernance du pays. De cette manière, avec l'appui de la communauté internationale, nous pouvons facilement mettre en échec le M23. Les Ouazalendo le démontrent, ils ont récupéré Nyabiondo, ils ont récupéré Kachebere. Dans le Massissi, il y a des entités qui échappent totalement aux Ouazalendo. À Ouvira, même chose, les Ouazalendo résistent. Mais il n'y a que la défaillance du gouvernement central qui démobilise et la communauté nationale et la communauté internationale. Il faut donc que SSC5O active cette démarche, qu'on réqualifie la gouvernance, ce qui va nous permettre de capitaliser ces opportunités qui nous ont offertes par les sanctions à l'encontre du Rwanda et du M23.
Professeur Geoff Mudimbi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
C'est Mutamba Nyang, bienvenue depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. La situation à Luanda montre les défis persistants du processus de paix entre la RDC et le M23. Malgré la présence de la délégation congolaise, le début des négociations reste incertain. L'Angola, en tant que médiateur, doit clarifier sa position et convaincre le M23 de revenir à la table des négociations. Le retrait de l'Alliance Fleuve Congo et les sanctions européennes contre les dirigeants du M23 compliquent davantage le dialogue. Le M23 utilise ces sanctions comme un prétexte pour mettre en question le processus, tandis que Kinshasa exige des garanties sécuritaires avant tout engagement. Cette impasse illustre des difficultés à établir un cadre de discussion viable entre la RDC et le M23. Tant que les conditions politiques et diplomatiques ne seront pas clarifiées, notamment avec l'implication des médiateurs et la gestion des sanctions, le processus de paix restera fragile et incertain.
Professeur Geoff Mudimbi.
Merci beaucoup. Je viens de suivre l'intervention de notre compatriote de Lubumbashi. Il demande à ce que l'Angola ou bien Luanda puisse clarifier sa position et convaincre les mouvements AFC M23 à rejoindre les autres à la table des négociations. Tout cela est bien beau, mais on ne peut convaincre que celui qui a de bonnes dispositions d'être convaincu. Mais quand la volonté politique n'y est pas, Luanda peut faire tout et cela ne donnera aucune suite. Vous savez, même en matière d'insanctions, pour amener la personne sur qui on exerce les sanctions à marcher dans le sens voulu, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faudrait observer, mais j'émets ici deux éléments fondamentaux en vogue. D'abord, un, il faudrait que la personne sur qui on exerce la pression puisse sentir réellement la gravité des sanctions. Alors, si cette gravité des sanctions-là n'est pas ressentie, vous allez tout faire, jamais les sanctions ne vont amener la partie qui les subit à marcher dans le sens que vous souhaitez. Deuxième élément, il faudrait éviter que les personnes ou les gens sur qui on exerce les sanctions puissent disposer des mécanismes d'émousser ces sanctions. Alors, c'est ainsi que on peut exercer les sanctions, mais si eux, de l'autre côté, savent comment ils peuvent émousser ces sanctions, alors ces sanctions-là ne resteront que des chapelets de bonnes intentions. Mais en réalité, ne peuvent pas amener les autres à marcher dans le sens que l'on souhaite. Alors, s'il n'y a pas de volonté, je pense que le mécanisme le mieux indiqué, c'est la contrainte. Donc, il faut amener les gens, il faut les contraindre.
Professeur, c'est...
Alors, raison pour laquelle professeur, je voudrais, j'ai insisté sur...
Professeur Moudimbi.
Oui, monsieur Guimaté.
Dans les contextes du moment, cette contrainte viendrait de qui? Viendrait d'où?
Oui, donc, la contrainte viendrait d'abord de la communauté internationale, que je préfère bien appeler société internationale. Il faudrait peut-être amplifier cette contrainte-là. Peut-être à ce niveau aussi, on considère que ces contraintes sont des faits anodins et qu'ils ne peuvent en aucun cas infléchir leur position. Alors, cela signifie que, bon, la partie AFC-M23, soit elle a réussi à émousser les sanctions, soit elle ne sent pas tellement la gravité de ces sanctions. Donc, à ce moment-là, il faut amplifier. Et j'insiste très bien en l'absence de la bonne volonté. Mais le pays aussi ne doit pas seulement attendre que tout soit fait par la communauté internationale. Il y a aussi des choses que le gouvernement doit faire et qui relèvent de sa propre responsabilité. Donc, le gouvernement doit apprendre à mieux s'organiser. Et pour le moment, je pense qu'on ne peut pas gagner la guerre sans aussi l'intervention de l'intelligence artificielle, des moyens de communication sophistiqués. Bon, ce sont des choses, je pense que nous devons quand même aussi nous remettre en cause par rapport aux choses que, non, par rapport à nos tactiques ou à notre manière de faire. Monsieur Guimaté, je dois d'abord vous dire quelque chose. On a organisé à Kinshasa un consortium pour réfléchir sur les stratégies pour maintenir l'intégrité territoriale de notre pays. Quelque chose que nous avons beaucoup plus salué. Mais regardez comment ce consortium a été médiatisé. Donc même l'ennemi pouvait déjà comprendre toutes les stratégies que nous sommes en train de faire, de monter. Est-ce qu'à ce moment-là, l'ennemi va nous prendre au sérieux? Voilà pourquoi je dis, c'est vrai, nous devons capitaliser cette position favorable, entre guillemets, de la communauté internationale sur la situation de la RDC. Mais il y a aussi en interne des choses que nous devons faire nous-mêmes pour avoir cette position prééminente sur l'AFC-M23. Mais si nous restons toujours dans cette distraction, je tiens à vous dire que l'instinct de la défense, on le retrouve chez tous les êtres vivants. Donc c'est vrai, même si ce mouvement-là s'est retiré des négociations, soyez rassurés que ce mouvement va aussi continuer à réfléchir sur ses moyens de défense. Alors, si réellement nous ne faisons pas attention, nous pensons que non, c'est fini, ils sont vaincus, attention, les gens peuvent toujours s'organiser autrement. Voilà pourquoi je demande au gouvernement congolais de savoir que les premiers ennemis de la RDC sont d'abord nos voisins. Et il y a des auteurs qui estiment que parmi les fonctions de l'État les plus importantes, c'est la préparation à la guerre. Donc nous devons déjà, même si nous entretenons de bonnes relations avec les voisins, mais nous devons les considérer comme nos premiers ennemis et commencer déjà à nous préparer sur le plan militaire par rapport à eux. Mais à partir du moment où, comme l'armée congolaise était infiltrée et tous les médias en parlent, donc on connaît nos capacités, on connaît nos faiblesses. Alors à ce moment-là, le voisin s'organise mieux pour nous attaquer.
Merci.
Et nous devons faire un effort de renverser la vapeur, c'est-à-dire faire aussi de sorte que on nous infiltre, nous faisons aussi un effort pour infiltrer les autres.
Merci.
De manière à connaître leurs capacités et commencer à nous préparer par rapport à eux. Malheureusement, l'indiscipline nous caractérise. Regardez comment les Congolais trahissent leur propre pays.
Merci, professeur. On a
compris. Mais nous pouvons nous poser la question, est-ce que avons-nous appris combien de Rwandais ont accepté de trahir leur pays comme les Congolais le font avec la RDC?
Merci, professeur.
Voilà,
vous avez compris.
Dans ce processus, je termine, monsieur Guimaté, ce processus de préparation, on doit aussi investir suffisamment de moyens pour l'éveil du patriotisme.
Merci. Merci. Là, nous avons Victor Arnold qui nous pose la question de savoir, dites-nous juste si c'est vrai que Félix et Kagame étaient face à face au Qatar aujourd'hui. Effectivement, Victor Arnold, aux dernières nouvelles, on apprend que Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés ce mardi 18 mars à Doha sur invitation du Cheikh Tamim, l'émir du Qatar, dans le cadre des efforts visant à pacifier l'Est de la RDC. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous allons commencer par la conclusion. Nous allons commencer à conclure, honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du parti parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable du Nord Kivu. Face à cette situation, qu'est-ce qui doit être fait pour ne pas rater cette fois-ci cette occasion qui nous est offerte pour tenter de régler pacifiquement cette crise de l'Est du pays?
Ce qui doit être fait d'abord, c'est la vigilance à l'égard de Félix et de Paul Kagame. En novembre 2008, il y a eu une rencontre secrète Kagame-Kabila à Nairobi. De cette rencontre est sortie l'opération Umojawetu. On a autorisé à l'armée rwandaise de se déployer à l'est de la RDC, on a fait un simulacre pour dire que cette armée était rentrée. Curieusement, les troupes rwandaises étaient restées. De cette rencontre secrète est sorti le fameux accord du 23 mars 2009. Aujourd'hui, le M23 s'est dit à position des lois plus fortes qu'en 2008-2009. Il y a risque que par une rencontre secrète, Félix Kagame au signe des accords pires que ceux de 2009 qui auront replongé le pays dans le chaos, qui auront consacré de fait la vente du Kivu, comme Kagame l'a toujours réclamé. Et donc la toute première des choses, c'est que les Congolais évitent toute forme de naïveté. Deuxième chose, SSC5O doivent de toute urgence réunir les intelligences congolaises. Ce n'est pas à Qatar, ce n'est pas à Luanda, ce n'est pas à Nairobi que l'on doit traiter de la question congolaise. Nos évêques doivent réunir toutes les parties prenantes pour que les intelligences congolaises, qui sont les victimes perpétuelles de ces chaos, règlent, trouvent des solutions, notamment la réqualification du leadership. Enfin, il faut faire comprendre à Nanga et à tous les compatriotes qui sont dans la FCM 23 que nous ne pouvons pas accepter que nous soyons replongés aujourd'hui dans une situation de colonie rwandaise de la RDC. On est en train de piller les biens des Congolais, peu comme la Belgique pillait nos ancêtres dans les années 1985. Nous allons nous réveiller comme nos parents se sont levés en 1959. Les populations de Bukavu, de Goma, de Walikale, de Butembo ne vont pas indéfiniment se laisser faire. Bref, qu'ils sachent que l'illusion de la supériorité des forces qu'ils ont aujourd'hui ne va pas continuellement demeurer, mais que Félix sache aussi qu'il n'a pas un chèque à blanc. On a jusqu'ici toléré sa présence malgré les défaites, malgré les contre-performances, mais si de nouveau il y a des accords contre nature, il y a des entités, des villes qui tombent, nous allons finalement exiger qu'ils se mettent à l'écart et que tes compatriotes trouvent un nouveau champion qui puisse assurer la victoire à la guerre.
Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, vous allez aussi conclure. Vos propositions pour que l'on ne rate pas cette occasion, cette opportunité qui nous est offerte, n'est-ce pas, pour cette fois-ci tenter de régler de manière pacifique cette crise de l'Est?
Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord signaler que nous devons garder un esprit positif. Même la guerre de 100 ans a fini toujours par la paix. Et nous pensons que la paix reviendra au pays. Et nous souhaitons cette paix-là qu'elle arrive le plus tôt possible. Mais je pense que pour y parvenir, il faut organiser l'appareil de l'État. J'insiste encore sur cet élément-là. Donc que l'État soit organisé de sorte que l'État congolais soit à mesure d'instaurer son autorité sur l'ensemble du territoire du pays. Et c'est possible. Alors, cette autorité de l'État, si elle est instaurée, il y aura de la discipline, on va éviter les détournements, parce que les sommes détournées sont vraiment mirobolantes. Mais si elles pouvaient être capitalisées pour l'instauration de l'autorité de l'État, je pense qu'on ferait œuvre utile. Un autre élément sur lequel nous devons nous appuyer, c'est la socialisation politique, de manière à créer chez les peuples congolais cette veille de patriotisme, aimer son pays, ne pas trahir le pays, être attaché. Donc, ce que nous avons de plus précieux en tant que Congolais, c'est ce territoire. Nous devons le défendre contre vents et marées. Et je pense que si ces choses sont conjuguées et mises ensemble, il y a lieu que réellement nous soyons un pays fort au cœur de l'Afrique. Mais aussi un autre élément, c'est que les revenus mobilisés doivent être répartis équitablement entre les différentes couches de la population de manière à ne pas créer des frustrations. Ce sont ces frustrations-là qui font que certains pactisent avec l'ennemi et finalement les Congolais commencent à trahir leur pays.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Jean-Baptiste Mouinde Kasekwa et professeur Jeff Moudimbi. On devait aussi avoir monsieur Jean-Thierry Mosenepo, cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, parti membre de l'Union Sacrée, mais malheureusement il n'a pas répondu au téléphone. Merci aussi à Kéline Kouté qui a réalisé cette émission. Elle était assistée d'Étienne Lusumbu et d'Hébertin Kassiama, et Jean-Claude Ntiala était à la technique avec la participation de Clément Chimanga et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sevoujangwe. À la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi.